Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Confluence est une association qui a été créée il y a 25 ans, qui consacre ses activités sur la création, l'organisation, la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de la vie de Confluence, c'est Lettres d'automne. La 25e édition s'est déroulée en novembre dernier autour d'Agnès de Sarthe, qui était l'invitée principale, et autour de ses invités aussi. Le cercle de lecture de Confluence rassemble des lecteurs qui échangent autour d'un livre. Le livre dont on a débattu au cours du dernier cercle, c'est un livre de Javier Cherkas, qui a été publié chez Actes Sud en 2015 et qui s'appelle « L'imposteur ». Pour en parler, sont rassemblés dans ce studio de CFM.
Françoise.
Jean.
Geneviève.
Jeannette.
Très bien. Javier Cherkas, alors Javier, pardon. Il est né en 62 à Cacheres, je ne sais pas si on prononce ainsi, mais ça ne fait rien. Il est un écrivain et traducteur catalan qui vit à Barcelone. Il a étudié chez les Maristes. À 15 ans, la lecture de Borges marquera son écriture à jamais. C'est un ancien professeur de littérature espagnole. Il collabore régulièrement au quotidien El País. Il est devenu très connu du grand public avec son troisième roman, Les soldats de Salamine, qui a été publié en 2002 par Actes Sud, et qui a été révélé par Mario Vargas Llosa dans un article célèbre. Il a obtenu aussi les éloges de Coetzee et de Susan Sontag. Il a remporté de nombreux prix, parmi lesquels le prestigieux prix Méditerranée, étranger, en 2014 pour son cinquième roman qui était Les lois de la frontière. Son œuvre est traduite dans plus de 20 langues. Or, Les soldats de Salamine et Les lois de la frontière, il a publié à petite foulée, À la vitesse de la lumière, Anatomie d'un instant. Et donc, c'est de l'imposteur, aujourd'hui, dont nous allons nous entretenir. Jean, une présentation peut-être rapide de l'imposteur.
Oui, alors, présentation rapide. Pourquoi ce titre, l'imposteur? Il s'agit donc d'un personnage réel, Enric Marco, qui s'est fait passer pendant des années pour un ancien déporté, qui organisait des conférences, des réunions, qui avait une immense habileté pour émouvoir le public. Et tout d'un coup, petit à petit, on peut dire, la vérité s'est révélée. C'était un imposteur, c'est quelqu'un qui avait inventé son histoire. Mais avant d'inventer son histoire de déporté, il avait déjà était très habile pour se faire passer aussi pour un ancien anarchiste. Et c'est quelqu'un qui donc était pris par la folie de la médiatisation. Oui. Cherkas dit qu'il souffrait de médiapathie. C'est-à-dire la maladie de celui qui veut toujours être en avant, celui qui veut toujours passer pour la vedette, la star, etc.
Ah oui.
Et le livre étudie le comportement de ce personnage et l'auteur essaie de comprendre ce personnage d'imposteur, ce personnage donc de menteur génial d'une certaine façon.
Donc, et c'était une imposture qui a été révélée récemment, puisqu'elle a été révélée en 2005, semble-t-il, par un journaliste. Et c'est en 2009 que Cherkas a commencé à s'intéresser à ce personnage pour lequel il dit qu'il a été fasciné. Parlons de lui. Il a été fasciné.
Fasciné parce que il a, tout au long du livre, enfin, qui s'intitule roman, il se pose la question de savoir si lui-même, en tant que romancier, n'est pas aussi un imposteur, quelqu'un qui crée continuellement de la fiction.
Alors c'est un livre qui fait, je ne sais plus combien, mais presque 400 pages. C'est un livre qui fait 400 pages. Et on peut dire tout de suite que même si on connaît, parce que Cherkas nous dit dès les premières pages ce dont il s'agit, à savoir l'histoire de cet imposteur et ses méfaits en particulier, on reste passionné par cette enquête qui se déroule petit à petit. Et surtout, c'est l'occasion d'une méditation très profonde sur de nombreux thèmes, sur le roman, sur l'imposture, sur beaucoup de choses dont on va parler maintenant, Geneviève.
La question, finalement, c'est, il y en a deux principales. Une première, c'est que le romancier, qui d'ailleurs part d'entretiens qui ont été très très longs avec le personnage, Enric Marco. Est-ce que le romancier va parvenir à mettre son personnage, mais cet homme-là, devant sa vérité? Est-ce que il va abattre finalement les masques? Et deuxièmement, est-ce que le romancier va arriver à faire un roman? Ou alors, quel est le d'ailleurs, parce qu'il hésite longtemps à l'écrire, à prendre en main ce personnage pour en faire un personnage de roman. Et quel est le type de roman qui va naître de cela, puisqu'il s'interroge sur sa propre écriture. Donc, c'est ce qui fait peut-être le suspense du livre, c'est l'addition de ces deux questions. Et bon, on laissera le lecteur arriver jusqu'au bout pour voir à quelle réponse, mais des réponses donc d'ordre littéraire et des réponses d'ordre psychologique et humaine. Voilà ce qu'on peut dire au début.
Françoise, vous voulez rebondir sur le...
Moi, simplement pour dire que ce qui m'a particulièrement intéressée dans ce livre, que j'ai trouvé tout un petit passionnant, ce sont les interrogations de l'auteur sur l'ouvrage qu'il est en train d'écrire. J'aime bien les récits où il est question du travail du romancier, sur justement ce qu'il est en train d'écrire. Et c'est la différence qu'établit Cercas entre le travail de l'écrivain et la contrefaçon qu'en a réalisé, Marco. En fait, en littérature, dit-il, le romancier est un menteur, puisqu'il fabrique sa fiction en maquillant ou en déformant la vérité historique ou biographique. Mais Marco, lui, dit-il, n'a pas appliqué le mensonge simplement à une œuvre, mais à toute sa vie. Et ce qui est permis en littérature, dit-il, n'est pas permis dans la vie. Marco a confondu de façon volontaire les romans et la vie. Il n'a pas accepté d'être ce qu'il était et il a eu l'audace et l'insolence de s'inventer à coups de mensonges. Or, les mensonges ne conviennent pas du tout à la vie, même s'ils conviennent très bien au roman. Et bon, si le mensonge convient très bien au roman, c'est parce que le romancier, écrit Cercas, à partir de la fiction qu'il compose, fait surgir une vérité qui ne cache pas la réalité, mais qui la révèle. Et ainsi, il fait accéder le lecteur à une connaissance du réel et de lui-même. Or, Marco, lui, dans ses divers mensonges sur sa vie, n'a pas proposé aux Espagnols de la fin du XXe siècle, au moment où, justement, ils prenaient connaissance de l'histoire du XXe siècle, de la guerre, du franquisme, une vision historiquement conforme à ce qui s'est réellement passé pour les résistants au franquisme, mais une version, je cite Cercas, romancée, décorative, des narrations remplies d'émotions, d'effets d'emphase mélodramatique, imperméables aux complexités et aux ambiguïtés de la réalité, ce que Cercas appelle le kitsch historique. Et ce kitsch, les médias se sont empressés de le diffuser. D'abord parce que c'était un sujet à la mode, et puis parce que c'était un discours rassurant, mielleux et menteur, que les gens souhaitaient entendre. Ainsi, quand Cercas se pose la question au départ « Suis-je un imposteur ?» en tant que romancier, on peut répondre non, alors que Marco, lui, est un faussaire qui a trafiqué sa vie.
Alors, il y a une phrase qui revient souvent, qui est un peu un leitmotiv dans l'imposteur, c'est qu'il dit « la fiction sauve, la réalité tue
hein ». Jean. Mais il y a un moment donné où la formule s'inverse,
oui. Voilà.
C'est-à-dire que là, finalement, la fiction peut tuer et la réalité, ce qu'espère peut-être le romancier, pourrait sauver. Moi, je voulais revenir sur... la phrase qui est en exergue tout à fait au départ. C'est une citation d'Ovid à propos de la légende de Narcisse. Et la légende de Narcisse, telle que la reprend Cercas, c'est le personnage vivra, restera vivant, tant qu'il ne se connaît pas. À partir du moment où il va se connaître, dans la légende de Narcisse, le personnage meurt. Et c'est la question qui se pose donc par rapport à Marco. Est-ce que, à un moment donné, quand il va finalement découvrir, enfin quand on va lui imposer sa vérité, est-ce que ça ne va pas le tuer? Bon, on se rend compte que non, que le personnage a une résistance fantastique et que de toute façon, il est tourné vers la vie.
Et puis il est aidé. Il est aidé par sa famille. Ouais. Il est aidé par sa famille qui, même devant la révélation de tout son passé, parce que, par exemple, il a été une première fois marié, une deuxième fois marié, une troisième fois marié, et les deux dernières épouses n'ont jamais su le premier mariage. Bon, et puis toutes les supercheries, malgré cela, il cite Camus dans son discours de Stockholm, disant que entre la, il préfère sa mère. Mais la femme de Cercas, mais de Marco, les filles de Marco préfèrent leur père à l'image qui en est faite. J'avais envie, moi, de rebondir sur autre chose qui m'avait beaucoup intéressée, outre le mythe de Narcisse, que je trouve intéressant. C'était le fait que Cercas ne porte pas de jugement pesant sur Marco, et que d'ailleurs, pendant toutes les années où il l'interviewe, où il le rencontre, enfin où il regarde les interviews qui ont été faites avant lui, il change d'opinion à son sujet. Et j'ai envie de lire un petit passage où il le dit. Après avoir surmonté le dégoût initial qu'il m'inspirait, après avoir abandonné ma ridicule attitude de juge ou de procureur ou de catéchiste, et avoir compris que ma tâche consistait à dépouiller peu à peu son passé de ses fictions, comme on éplucherait un oignon, à un moment donné, j'ai éprouvé de l'affection pour cet homme, parfois même une espèce d'admiration que je ne pouvais pas m'expliquer et qui me perturbait.
Et dans une interview qu'il a donnée, quand on lui demande quelle image conservez-vous de ce drôle de personnage, il répond « Celle d'un homme normal et complètement exceptionnel. » Ou, comme l'a écrit mon ami Mario Vargas Llosa, « Horrible et génial. C'est un acteur prodigieux. Sa rapidité d'intelligence hors norme, son énergie fabuleuse, sa capacité à séduire, sa force de caractère à toute épreuve lui ont permis de survivre. Bon. Mais quand on lui demandait aussi dans la même interview pourquoi est-ce qu'il était tellement fasciné par Marco, il répond, et je trouve que c'est très intéressant, c'est parce qu'au fond, il ressemble à nous tous. Marco est l'hyperbole monstrueuse de tous les hommes, un mélange de réel et de fiction. La littérature ne cesse, pour évoquer l'humanité, de nous en présenter. On aurait dit, voyez Hamlet, Macbeth, Roméo et Juliette. Pourquoi est-ce qu'ils nous fascinent tous? Parce qu'ils sont le miroir de ce que nous sommes profondément. Hein, vous êtes bien sur CFM, mais vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Nous débattons aujourd'hui, nous échangeons plutôt, autour d'un livre de Javier Cercas, L'Imposteur, qui est paru chez Actes Sud en 2015.
Et un autre intérêt, je trouve, de Cercas, c'est qu'il pratique un style de littérature qu'on retrouve chez Emmanuel Carrère en France, et que donc les deux écrivains, Carrère ne fait pas d'allusion à Cercas, autant que je sache, tandis que Cercas fait des allusions à l'écriture de Carrère et à l'écriture de Truman Capote. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis tombée sur une interview d'Emmanuel Carrère dans lequel il explique lui aussi la fascination qu'il a éprouvée pour un autre personnage qui lui était, Marcos n'a tué personne, mais tandis que Roman, que Carrère a étudié dans L'Adversaire, a tué lui. Et il explique justement cette fascination trouble dont parle Cercas, qui a fait que d'ailleurs Cercas a mis pratiquement 4 ans ou 5 ans avant d'accepter d'écrire sur l'imposteur, alors que tout le monde lui disait que c'était un personnage pour lui. Bon, tout à l'heure, s'il nous reste du temps, je vous dirai ce que Carrère raconte à propos de sa fascination pour Roman, mais je trouve que c'est intéressant de, à travers ces deux écrivains, de voir cette façon d'un narrateur qui à la fois se prétend romancier, de s'impliquer en écrivant à la première personne, en nous parlant de sa famille, en nous parlant de ce qu'il mange au restaurant, enfin, etc., au cours de son récit, dans quelque chose qu'il veut quand même être un roman.
Oui, ben, là, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est tout à fait vrai, mais en même temps, il me semble que Cercas interroge l'Espagne et son rapport au passé. Il y a une phrase aussi, il y a plusieurs phrases qui reviennent régulièrement, mais il y en a une concernant le passé. Il dit « on ne dépasse jamais le passé, il est dans le présent ». Et c'est une interrogation qu'il propose à sa nation, à son pays, pour que les Espagnols revoient, revisitent vraiment la façon qu'ils ont eu de vivre la guerre d'Espagne et bien sûr la guerre de 40. Pour arriver à la question ou à la réponse que le passé est dans le présent et que ça n'est pas en réinventant le passé mais en revisitant en permanence le passé et de préférence avec l'outil de l'historien. Car en réalité, si l'affaire Marco apparaît, il y a eu au départ quand même un travail d'un historien qui a obligé à... Oui. Voilà. Et là, on pourrait revenir sur cette réflexion sur la mémoire historique et le devoir de mémoire. Voilà.
Parce que ce qui s'est passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les journalistes, en fait... ils adoraient ce récit merveilleux, épique, un peu à la Hollywood, dans Technicolor, qui était servi par un homme très charismatique. Il avait de l'énergie, il était tonique, il était différent des autres témoins, un peu avachi, un peu vieillissant, quoi, la mémoire défaillante, etc. Tout le monde était ému par son personnage. Le Parlement, faut se rappeler que le Parlement l'avait reçu, qu'il a été gratifié de, il a eu la présidence de l'amicale de Mauthausen, il a eu une décoration, enfin, c'est invraisemblable, si vous voulez.
Et Cercas dénonce l'abus du fameux devoir de mémoire. Et s'il interroge l'Espagne, il interroge tous nos pays sur ce devoir de mémoire.
Oui. Il parle aussi du danger, finalement, d'accorder trop d'importance au témoignage, au témoin. Un témoin, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est capable de faire passer la vérité historique. Et il insiste beaucoup là-dessus. Et notre époque, il a l'air de dire, mais c'est sans doute vrai, que notre époque a tendance à accorder trop d'importance aux témoins. Un témoin, c'est pas forcément quelqu'un qui détient toute la vérité. Et le personnage de Marco a été considéré comme un témoin extraordinaire qui faisait pleurer les foules. Il y a un passage très très émouvant dans le livre où un jeune lycéen lui écrit après son passage donc dans son lycée pour lui dire vous qui avez vécu des choses tellement horribles vous me donnez envie finalement de vivre et de renoncer à ce qui était mon projet, c'est-à-dire me suicider. C'est quelque chose d'absolument terrible. Et en même temps, donc, ce personnage qui mentait, qui racontait des histoires extraordinaires, finalement faisait le bien d'une certaine façon. C'est ça qui est paradoxal et fascinant aussi.
Oui. Mais pour qu'il mentait, comme vous le dites, mais pour qu'un mensonge fonctionne, il faut toujours qu'il y ait un peu le goût de la vérité, quoi, un peu de parfum de vérité. Donc, et derrière toutes ces tromperies, il y avait toujours quelque chose qui était véritable, crédible.
Alors, il était très habile pour justement partir d'un petit élément vrai. Il était très habile aussi pour esquiver les questions gênantes. Il savait très bien finalement manipuler son interlocuteur. Donc, par certains côtés, comme le dit le fils du narrateur, il est génial.
C'est Marco.
Mais il savait aussi utiliser les faiblesses de ceux qui étaient en face de lui. Par exemple, il devient le secrétaire général, je crois, du syndicat national, du syndicat la CNT. Voilà,
oui. Parce syndicat que national des travailleurs.
Syndicat oui. national des travailleurs espagnols, parce qu'il profite des dissensions à l'intérieur entre ceux qui ont quitté l'Espagne. Après la guerre civile et qui maintiennent le flambeau allumé en France et ceux qui sont restés à l'intérieur et donc il paraît le compromis entre deux générations, enfin pareil pour la fédération de parents d'élèves dans laquelle il intervient en tant que normalement que seulement vice-président, mais à cause de son entre-gens etc, il l'incarne, il a l'air d'en passer pour le président, il sait se servir de tout ça, enfin.
Et très très habile pour se mettre en avant toujours. Alors le livre a un certain côté documentaire, c'est-à-dire il y a aussi quelques photos, quelques documents, et on voit à chaque fois qu'il sait se mettre en avant, il sait que le regard de celui qui verra la photo sera attiré par lui. Hein. Ça aussi c'est d'une habileté extraordinaire. Alors il y a autre chose aussi, un leitmotiv dans le livre, c'est la comparaison avec Don Quichotte. Et la comparaison qui permet de faire d'établir des points communs, mais aussi des différences, parce que l'histoire de Don Quichotte, c'est l'histoire de quelqu'un qui, à la fin, finalement, redevient normal entre guillemets, oui. Remet les pieds dans la réalité.
Mais meurt.
Oui.
Juste
oui.
après.
Oui. Tandis que bon, Marco reste dans son univers. Reconstruit complètement.
Oui, Cercas se réfère très très souvent à Don Quichotte, hein, qu'il considère que Cervantes a inventé le roman, au point même d'épuiser toutes ses possibilités. Et Cercas fait au fond la même chose ici dans ce roman, en y mettant tout, de la biographie, de l'autobiographie, de l'essai, de l'histoire, bien sûr, du journalisme. Vraiment, il y a tout ce qu'on veut. Et donc, il a fait un gros travail de rassembler tout ça et de donner au lecteur, alors vraiment, de quoi se nourrir très, très profondément. Oui. C'est vraiment, c'est un auteur vraiment admirable. On le savait déjà avec oui. les soldats de Salamine, mais moi j'ai été émerveillée par l'anatomie d'un instant.
Oui.
Un gros roman qu'on ne quitte pas. Roman, oui, oui, selon sa définition à lui, c'est un roman. Hein, même s'il contient tout, même si de temps en temps on a l'impression que c'est de la critique, que c'est de l'essai littéraire ou philosophique. Et il est l'anatomie d'un instant, c'est effectivement un instant où un personnage fait, il s'agit de Suarez, lorsque il a permis par son intervention à l'Assemblée, si je ne me trompe, que la dictature qui finissait devienne une démocratie. Donc c'est vraiment l'instant magique. Voilà, donc vraiment c'est un auteur vraiment à suivre, admirable.
Dans les soldats Salamine que vous avez cités, dans Anatomie d'un instant, et donc dans L'imposteur aussi, on retrouve tous les thèmes que Cherkas, des thèmes pratiquement, il les appelle les thèmes de sa vie, il essaie la fiction, la réalité, l'imposture, l'héroïsme, la lâcheté, voilà. qui sont dans tout ça. Oui.
Je
vous en prie, mais parce qu'il va falloir conclure.
Alors, à propos des soldats de Salamine, Marco, qui est très très habile et qui connaît bien l'œuvre de Cercas, lui dit, vous me reprochez d'avoir créé de la fiction, etc. Mais même dans votre roman, Les soldats de Salamine, vous avez inventé un passage. Hein, vous avez inventé votre visite vieux révolutionnaire en France, à Dijon, etc. Alors que vous n'y êtes pas allé. Et très très habilement aussi, il lui retourne finalement l'argument. Il y a aussi le fait que Cercas, dans ce livre, fait aussi de la fiction. À un moment donné, il imagine le dialogue qu'il aurait pu avoir avec Marco. Hein, et il fait les questions-réponses.
Et pour rebondir sur l'héroïsme dont vous avez parlé tout à l'heure, moi j'ai été émue par le fait qu'en démasquant le faux héros qui est Marco, il rend aussi hommage aux vrais héros qui sont oubliés depuis longtemps, comme par exemple un ami d'enfance de Marco, Fernandez Valette, qui a participé pendant 3 mois, fin 1938, dans la banlieue de Barcelone, à un groupe de jeunes résistants au franquisme, avant d'être arrêté, torturé et emprisonné pendant 15 ans. Je voudrais lire un court passage. Marco n'appartenait pas à la minorité, mais à la majorité. Il aurait pu dire non, il a dit oui. Il a cédé, il s'est résigné, il s'est laissé assujettir. Il a accepté la vie barbare, infâme et claustrophobique imposée par les vainqueurs. Marco est un homme ordinaire. Il n'y a rien à lui reprocher. Bien entendu, sauf d'avoir essayé de se faire passer pour un héros. Il ne l'a pas été. Personne n'est obligé de l'être. C'est pour cela que les héros sont des héros, et pour cela qu'ils sont une infime minorité. Honneur à Fernandez Valette et à ses compagnons.
Oh, t'as bien fait, hein, t'as bien fait de dire ça.
Oui,
hein.
Oui. Nous avons échangé donc autour de L'Imposteur, un livre écrit par Javier Cercas qui a été publié aux éditions Actes Sud en 2015. Javier Cercas est l'auteur de 2 autres livres que nous avons mentionnés, Les soldats de Salamine et Anatomie d'un instant. Au revoir, merci et au mois prochain.